Voilà, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, et d'autant plus sur cette thématique que j'ai voulu commencer un petit peu, mais juste en fait avant le Covid, donc j'ai eu un arrêt total, bien évidemment, car j'ai fini de faire la maquette, les 15 jours avant le premier confinement du mois de mars. Et je me souviens, ma femme m'a dit à ce moment-là, « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Puisque tu es bloqué, tu aurais pu attendre, comme ça, tu aurais tout le confinement pour faire la maquette. » Bon, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que, voilà, je suis reconnaissant de partager cela. Qui n'avait jamais vu une maquette du tabernacle parmi vous ? Voilà, il y en a quelques-uns ici, voilà. Il y a eu une maquette grandeur nature qui avait été exposé en Suisse dans les années 80. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'y aller, mais je vois que certains font bien ça de la tête, donc ils ont dû y aller aussi. Voilà, donc j'ai intitulé ces enseignements la grâce révélée. Pourquoi ? Parce que c'est un écho, me semble-t-il, et vous allez comprendre pourquoi tout au long de notre parcours, cet après-midi et demain après-midi, que l'apôtre Paul écrit à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et le tabernacle, on pourrait dire, mais c'est dépassé, c'est un peu obsolète, c'est une histoire qui est finie. Oui, culturellement, bien sûr que c'est une histoire qui est terminée, mais spirituellement, c'est quelque chose qui est toujours actif, toujours vivant, vous allez le voir, et je vais vraiment essayer de vous montrer ce que moi-même j'ai compris aussi, ce que j'ai découvert en étudiant et en faisant surtout la maquette, parce qu'il a fallu se plonger dans ces textes aussi pour la réaliser, même s'il y a des écrits, des livres qui en parlent, hein, on se réfère sur ces bouquins aussi. Oui, l'apôtre fait allusion à la grâce, par la grâce à la venue de Jésus-Christ, mais on peut dire que cette grâce avait été montrée, mais cachée en même temps. C'est par le regard du Nouveau Testament, si j'ai pu dire, comme un phare qu'on tourne vers l'Ancienne Alliance, et cette Ancienne Alliance alors s'éclaire de façon extraordinaire. Il est évident que les Juifs, les Hébreux, en temps et en heure, ne pouvaient pas saisir ce que nous pouvons saisir aujourd'hui, dans les détails. Peut-être Moïse en a eu des révélations, mais je ne pense pas que les Hébreux du moment, et même les Lévites sur lesquels on va parler, étaient vraiment sensibles à la Christologie, mais nous pouvons l'être, nous, d'autant plus aujourd'hui. C'est pour ça que c'est fabuleux de voir comment Dieu avait prévu tous les détails. Le tabernacle nous rappelle deux vérités importantes. La première, c'est que Dieu, le Créateur, n'est pas resté au ciel dans l'anonymat. Certes, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Jacob, il s'est révélé à Isaac, puis Moïse, mais il est descendu, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, au milieu de son peuple. Il s'est fait une place de choix. Il n'est pas resté dans son ciel, il a montré sa présence visuellement et audiblement, particulièrement envers Moïse. Et deuxièmement, par cet espace créé, Dieu va inviter l'homme séparé de lui, et on va voir comment il montre cette séparation, à s'approcher de lui. Il descend, c'est une chose, mais il descend pas pour se mettre à l'écart, il descend pour dire à son peuple et au monde, je me tiens là, venez près de moi, mais il y a des conditions. Et voilà les conditions, je vous les montre à travers le tabernacle. Alors vous comprenez que ce n'est pas en deux temps que nous pourrons faire le tour de tout, mais en tout cas on va essayer d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez déjà avoir une idée en relisant ces textes. Je vous invite vraiment la semaine qui vient à relire ces textes de l'Exode pour bien mettre en place ce que vous aurez entendu et y trouver vous-même encore des détails que je n'aurais pas mentionnés, bien sûr. Donc premièrement, le tabernacle, nous pouvons dire une habitation spéciale. Et j'aimerais que nous nous imaginions en avion survolant le désert. Et voilà que le pilote est sur le point de survoler le camp des Hébreux. Eh bien, nous verrions un petit peu cela vu d'avion. Ces tentes innombrables et au milieu, quelque chose de particulier, entouré de ce parvis dont on va parler, de couleur blanc, qui devait ressortir dans la couleur et dans le, sur le soleil du désert, au milieu de ces tabernacles, de ces tentes autour. Lorsque le prophète Balaam, sur un mont au-dessus justement d'Israël, veut sur la demande ou souhaite sur la demande de, du roi Balak maudire ce peuple, il ne va pas pouvoir faire cela et il va les bénir. Et il dira en particulier dans le livre des Nombres, « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob ! Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. » Alors peut-être a-t-il eu en vision ce que j'ai essayé d'imaginer que nous pouvions voir vu d'avion, ces tentes qui étaient très importantes, et vous allez comprendre pourquoi, vu le nombre de personnes qui s'y trouvaient. Alors le mot « tabernacle » en lui-même, en hébreu miskan ou miskan, la prononciation est peut-être un peu difficile, signifie simplement venir au milieu, être au milieu. Donc c'est l'idée d'habitation que veut dire le mot tabernacle. C'est vrai que les Israélites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, se sont mis dans les premiers temps tout de suite à camper, hein, quand ils ont traversé la mer Rouge. Le tabernacle n'était pas encore construit et il s'est passé quelques semaines avant qu'ils arrivent au Sinaï où Moïse devra prendre les données exactes pour construire le tabernacle. Eh bien, ils étaient déjà sous des tentes. Eh bien, Dieu fait comme son peuple. Dieu vient au milieu de son peuple en se faisant fabriquer une tente, là où il va aussi résider sous cette peau ou ces peaux que nous allons voir dans le week-end. Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Cette parole de Dieu prend écho, bien sûr, dans le prologue de Jean, où on peut déjà, nous, par le Nouveau Testament, saisir ce qui a été fait des milliers d'années plus tard. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous verrons comment les Hébreux, dans un moment, ont contemplé la gloire de Dieu dans le désert. Mais déjà, avec le Nouveau Testament, nous saisissons que Dieu revient au milieu de son peuple en la personne de Jésus-Christ. Et cette fois, il se fait voir par l'incarnation, par ce petit enfant, qui devient adulte et qui marche au milieu de son peuple. C'est le Christ, c'est Dieu lui-même en la personne du Fils. Le tabernacle de Moïse est donc un moyen inédit mais profondément efficace pour nous révéler l'œuvre de Jésus-Christ et en même temps pour nous faire comprendre quel chemin nous devons avoir et faire pour accéder à la présence même de notre Dieu. Et Jésus, on va le voir, l'a montré. Alors Moïse va préciser à maintes reprises dans les textes de l'Exode que c'est l'Éternel qui lui a donné le modèle avec tous les détails de sa construction. Moïse n'invente rien, il a pris les données dans son esprit, peut-être les a-t-il notées en même temps, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il écrit, ou ce que Dieu lui dit, « Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Donc en fait, on peut dire que Moïse a eu en vision déjà le modèle construit. Et on pourrait presque imaginer, et au jour d'aujourd'hui, que la 3D lui avait été montrée, ou peut-être il y avait un tabernacle en éclaté, c'est le cas de le dire, ceux qui connaissent un petit peu ces termes comprennent ce que je veux dire, hein, pour voir tous les détails, comment il fallait faire, etc., et les données et les cotes. Donc si Dieu ordonne de fournir, ou en tout cas fournit les plans à Moïse, c'est bel et bien le peuple qui va donner les matériaux pour que cela puisse être réalisé. Et on peut s'interroger déjà en se disant, mais d'où viennent les matériaux que le peuple va utiliser? Eh bien, il y a un texte intéressant au début du chapitre 3 de l'Exode, enfin, au verset 21, où il est dit « Je gagnerai la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Voilà ce que Dieu fait pour son peuple. Et il est vrai qu'au bout des 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte, Pharaon en a ras-le-bol et il se dit « Mais là, quittez, partez, parce que vous êtes une malédiction pour nous. » C'est un petit peu comme ça que les choses se passent. Et ils sont tellement contents de les voir partir que les Hébreux, sous l'ordre de Moïse, demandent des choses et on leur donne, sans problème. Oui, allez, hop, on peut imaginer un petit peu ça comme ça. Avec les enfants qui devaient mettre un, deux, peut-être trois vêtements pour en prendre un peu plus. Dans les chariots et les charrettes, on mettait tout ce qu'on a pu prendre, de la nourriture, des vêtements, etc., etc. Et ce sont donc ces richesses qui vont servir à la construction du tabernacle quelques semaines plus tard. Voici ce que dit ce texte, intéressant. « Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service, pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. » Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier, nous reviendrons et nous comprendrons pourquoi il est question de ça, en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod, du pectoral, on en parlera, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. J'ai mis volontairement en avant sur le vidéo les textes qui montrent la disposition de cœur. Je dis cela parce que, et j'insiste sur ce fait, pourquoi ? Parce qu'on peut voir, me semble-t-il, quatre classes de personnes au milieu du peuple. La première classe, ce sont ceux qui n'apportent rien. Sinon, il ne serait pas dit ceux qui avaient le cœur bien disposé. Donc, il était sous-entendu que certains n'avaient pas un cœur disposé à participer à la fabrication du tabernacle. Donc, certainement que des personnes n'ont rien apporté pour la construction. C'était donc des offrandes volontaires, disait le texte. Donc, chacun faisait comme il voulait. Deuxièmement, ce sont ceux qui apportent bien évidemment les offrandes parce que le cœur est disposé et que face à l'Éternel, ils ont été touchés de quelque chose. Ensuite, nous avons ceux qui travaillent à l'œuvre une fois que les choses ont été apportées et il fallait se mettre à l'ouvrage. Et puis, il y a ceux qui ont reçu un appel spécial pour accomplir le travail. Et Moïse dit, écrit, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de gravure et d'art, pour broder, tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, et pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Donc vous voyez, il y a des gens particulièrement saisis par l'esprit qui vont enseigner les autres et eux-mêmes travailler à des œuvres d'art de façon très particulière et très pointue. Il faut dire que ce sont des esclaves qui sortent d'Égypte. Les hommes travaillaient à fabriquer des briques, hein, cette génération. Certes, ils ont fabriqué leur maison, ils habitaient à Gozem, dans un endroit où ils étaient un petit peu à l'écart, mais ils étaient quand même en activité. Donc, ils travaillaient, oui, à faire des briques, mais ils étaient aussi en activité dans leur propre maison. Mais ça n'empêchait pas qu'il fallait qu'ils aient des qualifications spéciales pour faire le tabernacle, et en particulier, on fera demain après-midi sur le chandelier, qui était d'une complexité absolue, pour pouvoir le réaliser, entre autres. Alors, cette notion de cœur bien disposé me fait penser, bien sûr, à notre engagement nous-mêmes dans l'Église, dans le corps de Christ. Sommes-nous aussi disposés et bien disposés à œuvrer dans le corps de Christ tel que cela nous est demandé dans la parole ? L'enfant de Dieu né de nouveau ne vit pas seulement de l'Église, mais aussi pour l'Église. Mais c'est une liberté à chacun, comme à l'époque des Hébreux, disposé ou pas disposé. Et il est vrai que certains peuvent profiter, entre guillemets, de l'Église sans pour autant se donner à l'Église. C'est un peu dommage, mais ils perdent quelque chose aussi pour eux de ne pas donner, car il y a beaucoup plus de joie à donner, hein, qu'à recevoir, nous dit l'Écriture. Il y a diversité de dons, dit le Nouveau Testament, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous, à chacun la manifestation de l'Esprit donné pour le bien de tous. Et voyez déjà là, on pourrait s'arrêter sur cette notion de libéralité, de don, de se donner, pendant une semaine. Avec l'exemple des Hébreux dans le tabernacle et à travers le tabernacle. Donc c'est très large, n'est-ce pas, comme thématique. En tout cas, Dieu responsabilise son peuple par l'individualité. Je vous mentionne ici, et vous le voyez aux vidéos, la généalogie des 12 tribus, puisque ce sont ces 12 tribus qui sont là maintenant et qui vont partir dans le désert, avec bien évidemment la partie qui démarre d'Abraham, avec Sarai, qui ont Isaac, puis Jacob. Et donc c'est deux Jacob qui, avec ses deux femmes et ses deux servantes, va produire, entre guillemets, les 12 tribus d'Israël, dont deux de ses fils ne seront pas dans les 12, puisque Lévi va être mis à part, on va en parler, et que Joseph sera remplacé par ses deux fils, puisque Lévi sera lui aussi parmi les 12, avec Manassé et Éphraïm. Donc vous voyez ces 12 tribus qui vont être, et on va le voir, placées autour de la tente d'assignation, et nous allons voir comment. La tribu de Lévi, qui est composée de trois garçons, Kehath, Gershom et Merari, et c'est donc de la descendance de Kehath, en passant par Amram, que vont naître Aaron et Moïse, frères, et une sœur, Myriam, qui sera aussi et qui est mentionnée dans le livre de l'Exode. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiendront. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Mais pour éviter que tous les premiers-nés soient apportés, Dieu substitue une tribu, celle de Lévi, pour que cette tribu dans son ensemble soit consacrée au service de l'Éternel. Donc cette tribu se composait de trois hommes, je l'ai dit, les Kehathites, les Mérarites et les Gershonites, qui vont se placer autour du tabernacle de la manière suivante. Les Mérarites, tribu de Lévi, donc, vont se trouver au nord, les Gershonites vont se trouver à l'est et les Kehathites vont se trouver au sud. Et face à la porte d'entrée du tabernacle, de la tribu de Lévi, bien sûr, la famille de Moïse, Aaron et ses enfants, etc., se trouvaient devant. Au moment où Moïse va descendre de la montagne du Sinaï au moment où il reçoit les 10 commandements et en même temps tout ce qui va devoir être fait pour la construction, vous le savez, il se passe un événement dramatique dans le camp, puisque pendant 40 jours, Moïse, sur la montagne en feu, conversait avec Dieu, mais personne ne savait s'il était toujours en vie. Et le peuple, à un moment donné, va vers Aaron et dit à Aaron, Moïse est mort, personne maintenant va nous conduire, il faut que nous ayons un Dieu qui nous conduise dans le désert pour que nous arrivions en terre promise. Et Aaron accède à leur demande, ce qui est un peu surprenant, se fait piéger par la pression du peuple, et ils vont construire ce veau d'or. On voit déjà, quand on y pense un petit peu, et ça c'est quelque chose de laquelle vous pourrez peut-être continuer dans la réflexion, peut-être dans des études bibliques, mais on se rend compte qu'en fait il y avait toujours chez ces Hébreux cette culture égyptienne, entre guillemets, qui était là, ancrée dans leur cœur, parce que les divinités égyptiennes, il y en avait partout et pour tout. Et ils se disent, on n'a plus Moïse pour nous conduire, il nous faut une divinité, il nous faut quelque chose. Ce qui est surprenant, c'est que Aaron, au lieu de dire, non, mais attendez, vous faites quoi là? Si Moïse est mort, on va s'arranger autrement. Peut-être que Dieu veut que je prenne la place de Moïse. Mais attendez, j'ai surtout hors de question de faire ça. Non, ils demandent qu'on amène l'or, et puis ils font l'or, et ils font un veau avec, quoi. C'est assez impressionnant. Et quand Moïse vit que le peuple était en plein désordre, et qu'Aaron l'avait laissé, dit le texte, exposé au déshonneur parmi ses ennemis, Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit, qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne à moi. Et tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée aux côtés, transpercez, parcourez le camp d'une entrée à l'autre et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. On a l'impression que cet état de fait a mis officiellement, d'après ce que dit Moïse, les Lévites en service, en action, comme étant des représentants de Dieu, à la fois pour le service futur du tabernacle qui allait être construit, et en même temps pour exercer le jugement de Dieu au milieu d'un peuple qui l'avait déshonoré par le veau d'or. Donc derrière les Lévites, qui eux-mêmes étaient autour du tabernacle, s'étalaient les 12 tribus d'Israël par paquet de 3, donc 3 × 4, 12, avec une tribu qui chaque fois portait une bannière. Et donc Judas était la première tribu, et puis on s'installait un peu en colimaçon, en escargot, hein, autour du tabernacle, et les Lévites s'installaient eux autour de la tente d'assignation. Et vous verrez les trompettistes, bien évidemment, qui se situaient pour un au début, pour l'autre après 3 tribus. Qui eux, par les trompettes et par les sons qu'ils donnaient, chacun savait ce qui se passait ou qui devait se passer. Ils alertaient, ou Dieu alertait, à travers ces trompettes. Et lorsqu'ils se trouvaient donc en ordre de marche, eh bien ils étaient en colonne, dans le désert, avec la tribu de Juda, bien sûr, au début, et l'Arche de l'Alliance, qui déjà se plaçait avec la colonne de nuée, on va le voir dans un moment, au début. Parfois l'arche se trouvait un peu plus loin, mais souvent au départ. La tribu de Lévi donc était mise à part, bien sûr, et elle s'insérait au bout de 3 tribus, les Mérarites et les Gershonites, qui eux avaient démonté les planches, les barres, etc., tout ce qui est les toiles, les tapis, hop, sur des chariots tirés par des bœufs, et les Kéatites, eux, se mettaient au milieu, après six tribus, eux portaient sur les chars et les bœufs tout ce qui était à l'intérieur de la tente d'assignation, que nous verrons demain après-midi, simplement, avec les objets qui étaient à l'intérieur, et qui étaient recouverts chacun d'un voile ou d'un tissu. Donc lorsqu'ils partaient, voilà que c'est ainsi qu'ils se mettaient en colonne. Ils ont, on peut dire, à peu près, un peu plus d'une 30aine de fois, monter et démonter le tabernacle pendant les 40 années de désert. Ce qui est pas mal, mais parfois ils stationnaient longtemps, parfois c'était assez court, Et donc, il fallait, selon ce que Dieu disait, monter et démonter ce tabernacle. Et puis, bien sûr, leur propre tente. Vous avez vu, hein, vue d'avion. Il fallait quand même aussi démonter les tentes. Mais les tentes, c'était les chaque tribu qui s'en occupait. Les Lévites s'occupaient uniquement, enfin, de leur tente aussi quand même, parce qu'ils habitaient autour et du tabernacle. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ils étaient très nombreux. Je ne l'ai pas précisé. Ils sont à peu près 2 millions d'individus à sortir d'Égypte, avec femmes et enfants et hommes. Et les Lévites étaient très nombreux aussi, ils étaient des milliers pour chaque famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais mis des chiffres dans les petits carrés, les uns étaient à 5 000, les autres à 6 000, les autres à 4 000, etc. Donc ils étaient nombreux à travailler, hommes j'entends, hein. Pas des femmes et des enfants, uniquement les hommes. Hein. Donc quand vous verrez la maquette et que vous verrez l'échelle, c'est pour ça que j'ai fait les personnages volontairement pour que l'échelle soit respectée et qu'on voit la grandeur des choses. Un poteau qu'on voit qui tient le parvis, par exemple, avec 3 hommes, c'était pas compliqué, hein, pour le tomber, c'était faisable. Et comme ils étaient des milliers à y travailler, c'était comme une fourmilière, en fait, hein, ça devait se faire assez vite, surtout qu'au bout d'un moment, ils étaient quand même, ils comprenaient. Moi-même, quand je monte mon tabernacle, tel un lévite, et que je le démonte, je mets moins de temps qu'il y a 6 mois, hein, je vous garantis tout de suite, hein. Donc, ils ont dû faire la même chose. Alors, un peu de code ou de technique, si on peut dire. Je voudrais juste vous montrer que la maquette représente cette partie en rouge, ici, mais que le tabernacle, le parvis, continuait tout autour derrière. Hein. Voilà, il faut pas l'oublier. Je l'ai pas fait uniquement parce qu'il y avait plus de planches à faire, donc plus de travail et de portage, et en même temps il ne se passe rien derrière, donc je me suis dit c'est peut-être pas important de le mettre, et puis ça me permet, et vous l'avez remarqué tout de suite, et vous le remarquerez encore mieux demain, ça nous permet de nous avancer pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur, même si vous verrez, je vais quand même démonter certaines choses. Alors le tabernacle, les côtes sont en coudées. C'est pour ça que les chiffres sont précis et multiples. Alors quand on multiplie la coudée, qu'on la convertit, on a des décimales. Donc pour vous donner une idée, 100 coudées, nous sommes à 45,60 m de long environ, enfin pas environ, 45,60 m par 22,80 m de large. La tente d'assignation ou de la rencontre faisait 13,60 m de long à peu près et 4,50 m de large, avec le lieu saint et le lieu très saint qui étaient à un tiers à peu près. La hauteur du tabernacle faisait 4,50 m de la tente que vous avez vue en arrivant, et la hauteur du parvis, c'est-à-dire cette clôture blanche, faisait 2,28 m. Voilà à peu près pour les dimensions du tabernacle. Quand on parle de tabernacle, on parle de parfois tout l'enceinte ou parfois que la partie de la tente elle-même. C'est le contexte, quand on lit ces textes, qui nous font comprendre où on se trouve. Car on peut parler de la tente d'assignation, là on est vraiment dans la partie de la tente, avec le Dieu Saint et le Dieu Très Saint, mais on peut parler aussi du tabernacle uniquement pour parler de la tente d'assignation. Voilà, c'est pour dire que le contexte nous montre, quand on lit les textes, où nous en sommes. Arrêtons-nous sur la nuée que vous avez repérée et vue sur le tabernacle. Les Israélites l'ont déjà vue, cette nuée, avant même qu'elle vienne se poser, une fois que le tabernacle est construit. C'est au moment où ils ont quitté l'Égypte et qu'ils se trouvent dans le désert, ils se trouvent confrontés à un problème, c'est-à-dire la mer Rouge devant eux, et Pharaon et son armée derrière, qui a regretté de laisser partir les Hébreux, et vient fondre sur eux, si ce n'est pas les faire revenir, pour les tuer. Et donc ils sont coincés. Et il nous est dit que Dieu est intervenu à ce moment-là. L'ange de Dieu, qui marchait devant le camp d'Israël, quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Et en fait, cette nuée et cette colonne de feu va rester tout le temps nécessaire pour que les Hébreux traversent la mer Rouge, ce que ne voyaient pas les Égyptiens, puisque la nuée les empêchait de voir ce qui se passait derrière. Mais eux, ils étaient en train de passer la mer. Et quand ils ont quitté le territoire, qu'ils ont traversé la mer, alors la nuée s'est transportée au-delà de la mer, et les Égyptiens ont vu ce canal asséché, en se disant « bonne maison, on les suit ». Et vous connaissez l'histoire, hein ? Ils y sont tous entrés, et la mer s'est refermée sur eux, et ils sont morts engloutis. Toute l'armée de l'Égypte a été anéantie. Des siècles donc après la sortie d'Égypte, le roi David exprimait à sa manière cette profonde vérité de la présence de Dieu. « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. » Et ce sont des choses qui nous intéressent aussi aujourd'hui, car notre Dieu est le même. Il nous entoure par devant et par derrière. Et en fonction de notre vie, il nous conduit ou il nous protège. Tout dépend de la situation que nous pouvons vivre. Donc la nuée est la signe de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la nuée est là, ça veut dire que Dieu est là. On a un texte qui nous montre que, d'abord Dieu dit « l'Éternel descendit dans la nuée », dans l'Exode, et à un moment donné il est dit que Moïse mit un terme aux travaux du tabernacle, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » C'est comme si, quand vous avez construit, fait construire une maison, si ça a été le cas, le maître d'œuvre vous appelle, hein, et vous dit, voilà, on va vous donner la clé aujourd'hui. Eh bien voilà, vous avez la clé, et vous entrez dans votre demeure. Les travaux sont finis. Eh bien Moïse a fait pareil quelque part. C'était fini, Dieu a pris la clé de la maison, en tout cas, il est descendu, il a pris possession de l'ouvrage terminé et il a habité à ce moment-là au milieu d'eux. Oui, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Donc c'est un signe de la présence de Dieu. Et puis bien sûr c'est un guide dans le désert, on est d'accord, hein? Un désert où il n'y a pas de chemin. Moïse connaissait le chemin jusqu'au Sinaï et environ, puisqu'on n'est pas loin du territoire de Madian, là où il a vécu 40 ans, de 40 ans à 80 ans. Mais une fois qu'ils sont arrivés au Sinaï et dans le territoire de Madian, ils ont remonté vers vers Canaan, et là, Moïse ne connaissait pas la route, et il n'y avait pas de chemin. Et donc c'est l'Éternel qui allait devant eux, le jour dans la nuée, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Alors ils n'ont pas toujours marché jour et nuit, bien évidemment, mais au moment où ils étaient en colonne, c'était aussi le cas, parfois la nuit, et surtout le jour. Alors de nos jours, il ne nous est pas permis, bien sûr, de voir cette nuée, comme le voyaient les Hébreux, pour se déplacer et éviter de se perdre et mourir dans le désert, mais nous devons penser à quelque chose de capital qui fait qu'aujourd'hui nous avons une nuée aussi. Cette nuée, c'est la parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Cette parole, elle est devant nous et elle nous éclaire. Quand nous la lisons, elle nous éclaire sur tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituel, matériel, professionnel. On peut trouver des directions, bien sûr, pour notre vie. Arrêtons-nous maintenant un petit peu sur le parvis, qui est cet espace délimité en blanc, d'une hauteur de 2,28 m. Je sais pas, ça doit faire pas très loin, peut-être un peu moins que le plafond là, mais un peu plus bas quand même, hein, je pense. Voilà. Qui est donc fait de fin lin, c'est-à-dire d'une étoffe blanche, tissée, qu'ils avaient pris d'Égypte. Hein, souvenez-vous, dans le texte, le fin lin était mentionné. Et qui, ce fin lin était accroché sur des tringles en argent, donc vous les verrez sur la maquette, lesquelles reposaient sur des piliers, des colonnes, qui étaient faites en bois d'acacia, surmontées d'un socle en argent et d'une base en airain. Cet argent, cet airain, qui avait été aussi brûlé, chauffé, moulé sur place pour faire ces socles et ces têtes. Donc, elle interdisait toute indiscrétion. Vous chercherez ce petit garçon que j'ai fait volontairement pour faire un petit peu d'humour, n'est-ce pas ? Vous chercherez le petit garçon tout à l'heure que vous voyez là, Vous verrez, oui. Parce que je me suis imaginé quand même que sur 2 millions d'âmes qui étaient autour, avec tous ces enfants, peut-être plus ou moins obéissants ou turbulents, certains d'entre eux se sont peut-être approchés pour aller voir un petit peu ce qui se passait sous la toile. Je dis ça comme ça, c'est pas biblique, hein, mais je l'ai un peu imaginé. C'est humain, voilà. Et ils n'ont pas été foudroyés par le feu de Dieu, bien évidemment, car c'était, s'ils l'ont fait avec une simplicité et une curiosité normale. Donc cette clôture était solidement fixée au sol par des pieux qui étaient enfoncés, certainement très très longs, hein, parce qu'on était sur du sable ou de la terre, enfin, c'était, il fallait que ça tienne. Hein. Voilà, j'ai fait un petit personnage aussi qui travaille à réparer des pitons. Donc la pureté de ce, comment dire, le blanc du parvis exprime, me semble-t-il, la pureté de Dieu. Parce que face à ce fin lin, là, que l'on voit, cette couleur blanche, on sait qu'on va s'approcher de quelque chose de particulier, de la présence même de Dieu. Et je crois que ce blanc vraiment montre bien qu'attention, Dieu est pur, Dieu est saint. On entre dans un endroit où on n'entre pas n'importe comment, et on va voir comment. Dieu, en fait, tout en étant, je l'ai dit tout à l'heure, descendu au milieu de son peuple, reste séparé de lui. Car il ne peut pas se mélanger, car il est saint, et son peuple est pécheur. Voilà l'importance qu'il faut bien comprendre dans le tabernacle. Donc, c'est pourquoi l'Israélite se sentait de prime abord peut-être tout de suite un peu exclu, mais il y avait une porte, on va y venir, pour y entrer. L'Épître aux Romains nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc personne n'est digne d'entrer dans la présence de Dieu. Ça c'est une évidence de par la nature qu'il a dans son cœur. C'est pourquoi David va supplier Dieu dans un psaume, 51 verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et vous voyez, le fin lin, c'est blanc. Vous voyez l'idée de pureté que l'on peut mettre ici en avant. Dieu n'entreprend bien sûr aucune œuvre en l'homme sans lui montrer d'abord ce qu'il est et ce qui fait obstacle. Et ce qui fait obstacle, ce sont les péchés. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, dit Ésaïe. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Et voilà la situation de l'individu face à la sainteté de Dieu. D'ailleurs, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le paradis, c'était la présence même de Dieu. Une fois que le péché est entré, eh bien, Adam et Ève ont été chassés. Ils sont sortis, ils ont été exclus de ce jardin parce que c'était la présence même de Dieu. Et pour revenir dans ce jardin, eh bien, le tabernacle va nous montrer quelle était la solution que Dieu lui-même avait mis en place. La première chose qu'ils vont faire, Adam et Ève, c'est se revêtir de peau d'agneau que Dieu leur demande de tuer. Le sang commence déjà à se manifester. Et tout au long du tabernacle, nous allons voir que le sang est présent partout. Sans le sang, il n'y a pas de retour possible. Il est écrit d'ailleurs dans l'Apocalypse, à propos de la Nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et pour être inscrit dans le livre de vie, il y a une condition, et cette condition, on va commencer à la voir à travers le tabernacle, et bien évidemment, au-delà du tabernacle, à travers la grâce révélée en la personne de Jésus-Christ. Lorsque on arrive face au tabernacle, j'ai essayé de faire une photo. Alors il y a un retour là qui est un peu gênant. Tu sais pas trop? Notre technicien est parti? Bon, mais alors on va laisser l'écho alors. Je verrai si je me trompe comme ça. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu un visuel. Comment est-ce qu'on pouvait voir les choses? D'ailleurs, ça vous évitera de vous baisser. Mais voilà ce qu'on voyait, cette porte. On voyait la nuée et on voyait apparaître déjà la tente d'assignation, le lieu vers lequel on devait porter les regards. L'Israélite qui arrivait. Donc, je rappelle cette toile hein, qui est en quatre couleurs. Hein, ces quatre couleurs dont il était bien question dans les choses qu'ils avaient pris d'Égypte, hein, le pourpre, le cramoisi, le fin lin et le bleu sont là. Cette porte est tenue par une tringle en argent, elle aussi, laquelle est posée sur quatre piliers. Voilà, je vais y venir, je vais démontrer ces piliers. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et j'ai fait ce personnage volontairement, pour montrer que cette porte ne se tirait pas comme cela, pour l'ouvrir, n'est-ce pas? Elle ne s'ouvrait pas comme une porte normale, mais il fallait prendre le rideau d'en bas et le soulever pour pouvoir passer. C'était déjà comme un signe d'humiliation, d'humilité que l'on avait devant l'Éternel, voyez? Et on pouvait bien sûr être plusieurs à la soulever pour faire passer des personnes ou des animaux selon le cas. Mais c'est intéressant de remarquer cela, parce que cette porte finalement, personne n'avait d'excuse pour dire, elle était trop lourde, j'ai pas pu la soulever, ou en tout cas l'ouvrir. La serrure était grippée, hein, il faut y mettre de l'huile, mais je n'avais pas. J'avais pas la clé, on me l'a pas prêtée, donc j'ai pas pu rentrer. Non, n'importe qui pouvait soulever ce voile qui était léger pour y entrer. Pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse non plus pour entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'évangile est quelque chose de simple. Le message est quelque chose de simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà ce que nous dit l'évangile. Et c'est pour ça que Jésus dit, entrez par la porte étroite, large est le chemin, pas sûr qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais lorsqu'on parle de la porte étroite, on pourrait se dire, oui, c'est vrai que c'est pas forcément l'idée qu'il y a parce qu'elle est large, la porte dans le tabernacle. Mais il faut pas le prendre du côté matériel. Quand Jésus dit « étroite est la porte », il me semble qu'il veut nous faire comprendre qu'elle est étroite parce qu'il y a une condition quelque part. Cette condition d'humilité, cette condition de crucifier notre ego, d'accepter que nous sommes rien devant Dieu. Ça fait mal, ça c'est étroit, c'est dur. Et certains ne le supportent pas et ne le veulent pas. Par contre, large est le chemin qui ne vous remet jamais en question, qui vous dit éclate-toi, amuse-toi, profite de la vie. Ça pose pas problème. Enfin, les problèmes viennent après, hein. Voilà, entre autres. Mais vous voyez, c'est un petit peu dans cette idée que je comprends entre l'étroitesse et la largeur. Mais en même temps, bien sûr, Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et pour accéder dans le parvis, à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule porte. Hein, on ne pouvait pas accéder par ailleurs. Jésus ne dit pas « je suis une porte », mais il dit « je suis la porte ». Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Concernant les quatre piliers qui maintiennent la porte, eh bien cela m'a fait penser, finalement, et vous allez voir que pour ces piliers qui vont suivre, il y a aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant, aux quatre évangiles. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont ces quatre évangiles qui nous parlent de la porte, qui nous expliquent qui est cette porte, qui est venue du ciel, ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, avec chacun son identité, son but. Matthieu, Marc, Luc, Jean poursuivent chacun un but, mais en même temps, la base de leur écrit, c'est de présenter celui qui a dit « je suis la porte » et qui est descendu du ciel comme le Père était descendu du ciel. Alors quand nous entrons par cette porte, eh bien nous voyons le premier objet on la voit pas, si ça y est, elle arrive. Ce qu'on voit, c'est aussi la fumée qu'il y a qui sort de l'autel des holocaustes sur lequel on va s'arrêter. Alors imaginez quand même un petit peu. Non seulement il y a un petit visuel, on voit tout ça, mais imaginez un petit peu l'odeur. L'odeur des chairs brûlées, de la viande brûlée, qui était et du sang coulé, qui était à brûler aussi, ça devait pas sentir très bon. En tout cas, ça sentait ce que ça sentait. Certains diront que ça sentait bon, d'autres diront que ça sentait pas bon. Les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde, hein. Mais en tout cas, il y avait une ambiance certainement qui était un peu particulière. Donc, on s'approchait, on voyait, et en même temps, on sentait qu'il se passait quelque chose. Et on arrivait donc, après avoir traversé cette porte, à voir et repérer à sa gauche l'autel des holocaustes, qui était un carré parfait, fait en bois d'acacia et recouvert d'airain, avec une grille en son fond pour ramasser les cendres, ou en tout cas tenir les cendres, et pouvoir nettoyer une fois qu'on le démontait. Il faisait 2,50 m de côté et 1,50 m à peu près de hauteur, et il était entouré d'un petit monticule de terre ou de sable, vous le voyez sur la maquette, parce que il fallait monter à l'autel, on devait monter à l'autel, toujours faire un petit monticule et pas simplement balancer les choses comme ça. Voilà, c'est ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Voilà, vous monterez à mon autel. Donc il faisait toujours un petit promontoire pour y accéder. Alors la question qu'on peut se poser est: comment se passait un sacrifice? Eh bien, il y avait tout d'abord ce qu'on appelle la substitution. La substitution, eh bien, je prends un exemple du Lévitique, par exemple, mais il y en a tout plein, hein. Voici ce que dit cet exemple-là pour un péché particulier. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre. Alors il pouvait y avoir d'autres animaux en fonction des revenus, en fonction de la gravité du péché, etc. Une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Et il posera sa main sur la tête de la victime. Ça, on y reviendra dans la deuxième chose. Donc ce geste, en fait, symbolique, que vous verrez sur la maquette par cet homme qui vient et qui pose la main sur l'animal, est bel et bien la substitution. C'est-à-dire que il parle, il dit au Lévite qui est avec lui ce qu'il a sur le cœur, et en disant ce qu'il a sur le cœur, en posant la main sur l'animal, il transfère, d'où la substitution, le péché sur l'animal. Et comme Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort, celui qui est pécheur, c'est l'animal qui est maintenant condamné à mourir. Donc on va ensuite le tuer et l'offrir en sacrifice selon ce qu'était comme animal. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus-Christ était juste, sans défaut, que Dieu l'a fait pécher pour nous, que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il est tout à fait probable que lorsque Jésus, sur la croix, s'écrie « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que ce moment précis où Jésus dit cela, il est en train justement d'avoir toutes les mains des êtres humains sur lui, qui lui donnent leur péché. Et il devient le substitut. Et comme Dieu ne peut tolérer, ne peut voir le péché, eh bien, il se détourne du Fils qu'il est en train de les porter, et le Fils se sent littéralement abandonné par le Père, mais parce que le péché est sur lui. Mais il ne le sera pas longtemps, puisqu'à un moment donné, il dira « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». La relation sera rétablie, bien sûr, du moment que le péché va être pris et que le sang va couler, celui de Jésus, et tous les péchés seront effacés. J'y reviendrai. Ensuite, c'est l'expiation. Alors, je l'ai dit un petit peu, mais il est dit dans Lévitique encore, on égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes, le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel, donc vous verrez aussi sur la maquette des holocaustes, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Donc vous imaginez aussi dans le désert, par terre, sur le sable, tout ce sang qui était là, en plein soleil, là aussi ça devait peut-être sentir. Hein. Le prêtre enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel, son odeur sera agréable à l'Éternel. Donc il y avait une odeur, mais qui était agréable à l'Éternel. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme, et le pardon lui sera accordé. Oui, le sang qui coule donc, et recueilli, apporté au camp de l'autel, comme montrer à Dieu, voilà le péché, voilà le symbole même de ce péché que l'animal a pris sur lui, le sang, c'est la vie, et cette vie a été tuée parce que le péché était porté par cette personne, par cet animal. Oui, la Bible précise « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53. Lorsque Jean-Baptiste viendra et verra Jésus venir vers lui pour être baptisé, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, il fait une allusion, bien sûr, au sacrifice de l'ancienne alliance qui était là et qui vont être arrêtés et remplacés par celui qui est en train de venir, cet agneau. Et puis un autre texte, bien sûr, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. C'est pourquoi la troisième chose et la dernière étape, eh bien, c'est le pardon. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme et le pardon lui sera accordé. Quand la personne ressortait du parvis, parce qu'il n'allait pas plus loin, hein, nous allons voir que le prochain objet que nous allons voir est réservé aux Lévites et pas aux pécheurs pardonnés. Je vais montrer le symbole un petit peu pour l'Église plus tard. Mais le pécheur, une fois qu'il est pardonné, ressortait par la même porte, bien sûr, et était convaincu et avait dans son cœur l'idée, plus que l'idée, c'était terminé. Il pouvait, alors non pas repêcher autant de fois qu'il voulait, mais il était pardonné, point barre. Et personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit et le culpabiliser, puisque le pardon lui avait été donné. Alors, je voudrais quand même, je passe un petit peu ces textes, rappeler ce texte de l'Épître aux Hébreux, qui est important. Il nous est dit « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir. Ce qui rend de ce culte purifié une fois pour toutes n'aurait en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car, et là c'est important, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché, ou des chèvres, ou des pigeons, etc. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le sacrifice, le service, et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que lorsque l'individu quittait le parvis, je l'ai dit, il était pardonné, il n'y avait pas de souci pour lui. Sauf que l'ardoise était toujours notée dans le ciel. Tous les péchés étaient encore là. Et ça regardait Dieu, ça ne regardait plus l'individu. Et au moment où Jésus vient et meurt sur la croix, eh bien, il prend sur lui tous ces péchés qui jadis étaient toujours gardés en attente de l'agneau de Dieu parfait, puisque les animaux ne pouvaient pas, aux yeux de Dieu, parce qu'il n'était pas parfait, prendre le péché. On comprend ici que Dieu veut faire saisir l'individu que le péché a une conséquence et que le péché entraîne la mort. Et que pour le pardon, il faut que le sang coule. Donc on ne pêche pas impunément. Et ça, c'était important de le réaliser. Et en même temps, s'il était convaincu d'être pardonné, on le comprend, Dieu attendait de venir lui-même se sacrifier à la place des animaux. Il est l'agneau de Dieu. Et c'est pour ça que ce texte d'Hébreux nous dit que Jésus s'est offert en sacrifice pour les péchés et il s'est assis à la droite de Dieu. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, là, j'ai donné vraiment un exemple de substitution, de pardon, etc. Mais il y avait des cas où, par exemple, un animal, et particulièrement pour le Yom Kippour, c'est-à-dire le pardon pour le peuple en général, l'animal portait le péché et il était exclu du camp. Il y a un animal qu'on chassait en fait à l'intérieur, à l'extérieur, et qui mourait. Hein. Alors, il y avait d'autres situations, si on peut dire. Mais ce que je vous ai décrit ici, c'est la situation la plus fréquente, on va dire, pour celui qui venait sacrifier. Que ce soit au temps du tabernacle, comme au temps du temple plus tard, lorsque Salomon construira le temple en l'an 970 environ avant Jésus-Christ, grosso modo en l'an 1000 avant Jésus-Christ, hein, voilà, où on fera pareil. Voilà. Mais c'est ainsi que Dieu voulait que les hommes s'approchent de lui. Alors avant de terminer pour cet après-midi, cette première partie, nous allons nous approcher de la cuve des reins, ou en tout cas du premier voile, parce que cette cuve des reins va se trouver, vous le voyez, devant le voile, elle est ici. Vous l'avez repéré, je pense, en arrivant, peut-être. C'est le seul objet, avec celui du chandelier, dont les dimensions ne sont pas données à Moïse, ou en tout cas où Moïse ne donne pas de dimensions, lorsqu'il écrit. Donc elle est faite comme on peut l'entendre, comme on peut l'imaginer, comme on peut voir le service classique. Cette cuve est faite en airain, et elle est faite en fait à l'intérieur. Bon, elle est faite en airain à l'extérieur, etc. Mais à l'intérieur, Moïse y avait placé de l'airain poli. Alors c'est un peu comme du bronze en fait, hein, qu'on avait frotté et que les femmes, et dont les femmes se servaient comme miroir. Il n'y avait pas de miroir à l'époque, hein, on faisait ce qu'on pouvait. Hein, soit on pouvait se voir dans l'eau, soit on pouvait frotter ce bronze et en faire le polir pour qu'on puisse voir une image, qui était bien sûr pas forcément aussi évidente que ce qu'on peut, là, on peut avoir aujourd'hui. Et ces femmes en fait se retrouvaient, alors on ne sait pas trop pourquoi, autour de la tente d'assignation, mais pas celle qui est construite là, parce que c'était avant que cela soit construit, puisqu'il fallait prendre le matériau. Alors là, j'explique quelque chose. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, je vous ai déjà dit que les Hébreux campaient. Et Moïse campait aussi avec sa famille. Mais, en dehors du camp, il y avait une tente spéciale dans laquelle Moïse allait recevoir les instructions de Dieu. Déjà. Et autour de cette tente, le texte montre qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'y trouvaient. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles étaient là. Et Moïse va demander à ces femmes qui se trouvaient dans la tente, autour de la tente, d'offrir volontairement, si elles le voulaient, leur miroir. Et ce sont ces miroirs qui ont été placés à l'intérieur de la cuve pour qu'elles reflètent un petit peu plus encore la puissance du soleil du désert et en même temps peut-être fasse refléter quelque chose lorsque le lévite allait venir se laver les mains et les pieds à cette cuve avant d'entrer dans la tente d'assignation. Il nous est dit qu'Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre. Ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. Vous voyez, pour dire, hein, c'était important. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel des holocaustes pour faire le service du sacrifice. C'est-à-dire que le lévite qui recevait l'animal qui était mort, en tout cas qui venait de tuer, avant même de l'apporter à l'holocauste, il devait aller se laver et revenir récupérer l'animal et le brûler, ou apporter le sang. Donc il y avait une incessant conduite, en fait, parcours, entre la cuve des reins, qui était destinée aux lévites, bien évidemment, et pas au commun du peuple, hein, pour qu'ils soient sanctifiés, toujours sanctifiés, propres, lavés, même pour aller apporter le sacrifice à l'holocauste. Cela m'a fait penser, pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais rappeler cet épisode des évangiles que je voudrais associer spirituellement à la cuve des reins, parce que ça peut nous parler. En effet, lorsque Jésus va s'approcher de ses disciples pour leur laver les pieds, fameux épisode, n'est-ce pas ? Simon-Pierre refuse au départ, puis Jésus insiste, et puis à un moment donné, Pierre dit à Jésus, mais non seulement les pieds, mais encore tu me laves les mains, tu me laves la tête, enfin j'y passe partout quoi. Eh bien, la réponse de Jésus peut être un peu curieuse à Pierre, mais pleine de sens, me semble-t-il, bien sûr, quand il dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » En langage moderne, nous pourrions dire « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les mains ou de se laver ce qui se salit vite. » À l'époque, il se déplaçait pieds nus, ou en tout cas avec des sandales. Donc ce qui se salissait, c'était les pieds. Et c'est pour ça qu'entre autres, Jésus commence par les pieds, ce qui est le plus sale. Et peut-être que d'ailleurs qu'à Pierre, il a fait le reste. Aux autres, il est resté sur les pieds. Mais en fait, nous dirions que ce qui aujourd'hui peut se salir le plus pour nous, et d'ailleurs on le voit avec le Covid, on nous demande de nous laver les mains X fois par jour, hein, c'est parce qu'on touche des choses qui sont sales. Mais ça ne nous salit pas forcément le corps qui a été peut-être lavé le matin lorsque nous sommes sautés du lit, hein, ou la veille, le soir, si selon les habitudes des uns et des autres. Voilà. Mais ce que je veux dire spirituellement parlant, c'est que nous vivons au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr. Nous pouvons broncher de plusieurs manières, on est d'accord, personne n'est parfait. Oh, d'accord ? La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Eh bien, en fait, le salut que j'ai acquis en Jésus-Christ par la foi, au moment où j'ai réalisé ce que Jésus avait fait pour moi, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le pardon que j'ai reçu de Jésus par la confession de mes péchés ne m'empêche pas demain et ne m'empêchera pas demain de continuer à pécher et à chuter. Je vais donc devoir aller à chaque fois que nécessaire au pied de la croix demander pardon pour les choses qui vont être faites ensuite. C'est ainsi qu'on peut voir qu'il faut se laver, se laisser purifier à nouveau, parce que ça fait partie de ce que la Bible appelle la sanctification. Je suis rendu enfant de Dieu, sauvé, mais je ne suis pas rendu parfait pour autant, même si le Seigneur Jésus dit quand même, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et comment puis-je être parfait aux yeux de Dieu au moment où je vais me purifier tout le temps ? Je deviens quelque part, par le sang de Jésus, entre guillemets, juste et parfait, mais je ne le suis quasiment pas longtemps, puisque au moment où je quitte la présence même de Dieu, je deviens un pécheur qui va pécher par ses pensées, par ses actes, etc. Vous comprenez ? Donc cette cuve, en fait, il faut aussi y aller régulièrement. Et ça fait partie de notre spiritualité, je dirais même de notre vie de piété de chaque instant et de chaque jour. Oui, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, c'est un processus, la cuve des reins, qui nous est aussi demandée d'une autre façon, toujours là, présente à notre niveau. Alors, je voudrais terminer par cette parole qui rappelle un petit peu les miroirs de ces femmes avec lesquelles était faite l'intérieur de la cuve des reins, où l'apôtre Jacques nous dit: si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Quand nous venons à la cuve des reins pour demander pardon et nous laver à nouveau les mains, hein, parce que nous avons telle chose, c'est comme si le Seigneur nous permettait de nous regarder réellement tel que nous étions à travers sa parole, et nous devons éviter de repartir comme si de rien n'était et continuer notre vie comme si de rien n'était, mais progresser toujours plus en laissant la parole nous pénétrer, nous transformer chaque fois qu'elle nous reprend et que nous allons à la cuve des reins nous laver, en tout cas au pied de la croix, demander pardon au Seigneur. L'apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens 6, verset 11, « Vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous voyez, vous avez été lavés, mais vous avez besoin de vous laver les mains, encore toujours autant de fois que cela est possible. Et c'est l'Esprit de Dieu, comme il est noté ici dans le contexte, qui nous rappelle et qui travaille la conscience au point que nous sommes forcés de nous humilier à nouveau et de demander pardon chaque fois qu'il le faut. Voilà, nous allons nous arrêter là pour cet après-midi. On va avoir le temps, on n'est pas très nombreux, c'est bien, mais bon, si on était nombreux, c'est pareil, hein. C'est mieux. On va se mettre autour de la maquette. S'il y a quelques questions, j'essaie de répondre par rapport à ce qu'on a dit. Et demain après-midi, eh bien, nous allons commencer à voir un petit peu cette tente, comment est-ce qu'elle est faite, etc. Et je la découvrirai aussi demain après-midi pour qu'on entre à l'intérieur et voir ce qui s'y passe. Voilà, nous allons encore prier ensemble, si vous voulez bien, après quoi nous pourrons nous retrouver un petit peu autour de la maquette. Seigneur Jésus, nous sommes une fois de plus reconnaissants de ce temps où nous avons ouvert ta parole. Tu veux nous faire saisir, Seigneur, ces vérités spirituelles qui étaient visuelles à cette époque, mais qui peut-être n'étaient pas aussi claires pour les individus. Mais Seigneur, par Jésus-Christ, tu nous donnes de comprendre un peu mieux encore déjà l'intention que tu avais au milieu de ton peuple et qui allait être destinée à tous les peuples dont nous sommes. Seigneur, que ton nom soit béni pour la richesse, pour la beauté, la perfection de cette parole et pour surtout le sacrifice parfait que Jésus a accompli et qui nous a lavé de tous nos péchés. Merci Seigneur pour cela. C'est en Jésus que nous te prions et que nous te bénissons. Amen.